USMCA is not just a win for America, it is a big win for New Mexico, and we've got to get Congress to pass it into law.
Donc, on a entendu le vice-président Mike Pence, hein, qui était au Nouveau-Mexique et qui disait, écoutez, le nouvel accord de libre-échange nord-américain, là, c'est pas une grosse victoire juste pour les États-Unis, mais aussi pour le Nouveau-Mexique. Et Raphaël, il est là parce que on a de la misère à faire cheminer cet accord-là au Congrès.
On a toutes les misères du monde, Pat, et ce, depuis maintenant près d'un an, à le faire ratifier. Donc, pourquoi est-ce que le vice-président américain était au Nouveau-Mexique? Il était là parce qu'il se trouvait dans une circonscription qui a été remportée de justesse l'an dernier dans le cadre des élections demi-mandat par une démocrate. Et donc, le calcul qui est fait présentement par la Maison-Blanche, c'est on va, en bon français, dispatcher le vice-président à la grandeur des États-Unis, l'envoyer dans des circonscriptions qui sont vues comme étant compétitives pour essayer de faire en sorte que les électeurs de ces circonscriptions-là mettent de la pression sur leurs élus pour qu'eux, en retour, mettent de la pression sur leur boss, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour qu'elle permette la tenue d'un vote à la Chambre pour ratifier cet accord-là. Parce qu'on le rappelle, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est ça qui bloque présentement à la Chambre le fait que Mme Pelosi refuse la tenue d'un vote.
OK, Mme Pelosi, elle est démocrate et c'est elle, disons, la chef des démocrates qui ont la majorité à la Chambre basse, la Chambre des représentants. Pourquoi elle s'entête à ne pas faire cheminer cet accord-là?
Il y a une réponse officielle. Il y a une réponse officieuse.
Quelles sont-elles?
La réponse officielle, c'est qu'il y a des clauses dans l'accord tel qu'il a été négocié par l'administration Trump qui font pas l'affaire des démocrates. On veut notamment des standards par rapport à l'environnement, par rapport aux normes du travail qui seraient plus musclées, surtout en ce qui a trait au Mexique. La raison officieuse, c'est qu'on ne veut pas donner une victoire politique à Donald Trump. Parce qu'il faut se comprendre là, très clairement, ce que Mme Pelosi demande de faire, c'est de rouvrir le processus de renégociation. Quand on sait comment c'était
cauchemardesque, ardu. Ben oui, on s'en souvient, ici au Canada, on l'a vécu. Là. Oui.
On a parlé, écoute, pendant combien de temps? Ça a duré à peu près un an, le processus de renégociation. Ça a été très difficile. Donc, simplement suggérer de rouvrir ça, c'est pratiquement envoyer cet accord-là à l'abattoir. Donc, de façon réaliste, ce qu'on veut essentiellement, c'est ne pas donner de victoire à Trump. Et c'est pour ça que la Maison-Blanche n'entretient même pas réellement cette possibilité-là de rouvrir le processus parce qu'on se dit, peu importe ce qu'on va faire pour renégocier, ils ne voudront pas de toute façon voter là-dessus. Donc, il faut mettre de la pression pour lui, essentiellement forcer la main. Mais il n'y a pas de signe à l'heure actuelle, Pat, que Mme Pelosi va plier.
Et ça, Raphaël, ça montre un peu la complexité du système parlementaire américain parce que du système politique américain. Au Canada, le premier ministre signe, puis après ça, c'est une formalité.
Exact.
Le Parlement va l'entériner. Là-bas, il peut avoir des troubles faits dans les deux chambres du Congrès.
Et ça te montre comment, tu fais la comparaison avec le Canada, comment le premier ministre canadien à la tête d'un gouvernement majoritaire a tellement plus de latitude et de pouvoir qu'un président américain. Ça, c'est l'exemple parfait de la chose.
Ça surprend les gens quand on dit ça. Le premier ministre du Canada a plus de pouvoir dans son pays que le président des États-Unis dans le sien. Parce que, justement, le président des États-Unis doit composer avec le Congrès, puis des fois, le Congrès n'est pas de son bord, fait que ça prend des deals, etc. Bon, OK, c'est aujourd'hui la dernière journée pour se qualifier en vue de la prochaine ronde de débat présidentiel du côté démocrate.
Oui, les critères qui étaient établis étaient les suivants. De un, ça prenait au moins 4 sondages dans une fenêtre de 2 mois où on était à 2%, où un candidat était à 2% ou plus, et un minimum de 130 000 donateurs individuels à votre campagne si vous êtes candidat ou candidate. À l'heure actuelle, techniquement, on a jusqu'à 23h59 ce soir, là, mais à l'heure actuelle, il y en a 10 qui respecteraient ces critères-là.
Ça fait encore des débats à 10?
En fait, voici ce qui est...
encore cacophonique?
Oui, mais ça ferait un débat à 10 plutôt que 2 débats à 10. Oui. C'est ça la grosse nuance, mais je suis d'accord. Que ça soit sur une soirée ou sur 2, ça va quand même être cacophonique. Ça va être très difficile d'avoir des vrais échanges parce qu'on va devoir donner du temps de glace à un petit peu tout le monde. Mais à moins que les choses changent de façon très surprenante, ça serait sur seulement un soir, ça serait le 12 septembre, jeudi 12 septembre prochain. Tous les gros noms dont les gens ont entendu parler, les messieurs Biden, Sanders, Madame Warren, de ce monde se qualifient. Ceux qui sont largués sont des gens de toute façon dont à peu près personne n'a entendu parler.
Bon, on va surveiller ça. Écoute, Jimmy Carter a été président des États-Unis, président démocrate de 1976 à 1980. Oui. Il n'a pas gagné un deuxième mandat, il a perdu aux mains de Ronald Reagan, sauf que son histoire de vie après la politique, c'est une histoire extrêmement inspirante. Et à 94 ans, toujours vivant et toujours impliqué.
Écoute, le président le plus âgé de l'histoire tous les présidents, il y en a eu quoi, 44, quand on inclut le président actuel, 44 hommes qui ont occupé les fonctions de président. Carter, à 94 ans, est devenu un peu plus tôt cette année le plus vieux. Et ça va faire, et ça c'est remarquable, tu parles de 1980, il s'est fait battre en 80, ça va faire 40 ans qu'il est un ex-président. On n'a pas vu ça souvent, là.
Non.
Et ça fait 40 ans qu'il, au lieu d'être à la au foyer de retraite, là, est extrêmement actif pour le bien-être, non pas de son pays seulement, mais de l'humanité. Habitat pour l'humanité est impliqué très intensément depuis des décennies, avait notamment gagné le prix Nobel de la paix en 2002. Et ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est qu'après une chirurgie au niveau de la hanche, il allait retourner à son travail de bénévole pour Habitat pour l'humanité. Écoute, 94 ans, c'est incroyable.
Toujours très actif. Hein? Bel après-carrière. Lui, il n'est pas devenu multimillionnaire en donnant des conférences à 400 000 piastres. La craque, il allait bâtir des maisons dans les pays pauvres. Il le fait encore. Et c'est un gars extrêmement croyant, Jimmy Carter.
Oui.
Il a démissionné de son église parce que son église avait des positions qu'il jugeait complètement incompatibles avec ses valeurs face aux femmes.
Absolument. Et écoute, quand tu parles de la notion de service public, là, les politiciens souvent se présentent comme ça. C'est pas tout le monde qui leur accorde le bénéfice du doute. Peu importe ce que tu penses de Jimmy Carter au niveau de sa présidence, c'est un ex-président extraordinaire.
Une très belle histoire de vie.
Et parlant de belle histoire, je peux pas m'empêcher de revenir là-dessus. On a eu un moment franchement craquant hier en ondes parce que j'ai utilisé l'expression suivante, un homme qui avait des couteaux dans les yeux.
Oui,
on avait une auditrice de 7 ans, du nom de Romy Trépanier, qui nous écoutait et qui apparemment a eu beaucoup de peine parce qu'elle pensait que littéralement, il y avait un pauvre monsieur qui avait des couteaux dans les yeux. Donc, je la rassure, ma chère Romy, les yeux du bonhomme en question, j'en suis certain, sont en parfaite santé.
Ça a mené à une conversation entre la petite Romy et les parents sur le sens des métaphores.
Et son papa m'a même dit qu'elle a appris une nouvelle expression également, il pleut des clous.
16h58.